plume bat la campagne et va au-delà des rencontres.
Les 12, 13 et 14 août 2016 avaient lieu à Saint-Gobain, dans l'Aisne, le Festival des Verts Solidaires. Un week-end de musique, mais aussi de rencontres, avec le village associatif et les producteurs locaux.
Là, ils achètent des places. Du coup, dès qu'ils arrivent, on leur fait un petit speech.
On prépare déjà les cendriers.
On est pas chaud.
Alors, je tiens une ancienne boîte de conserve récupérée pour faire un magnifique standard après qu'il ait été peint. Et c'est quelque chose qu'on distribue.
D'ailleurs, je sais pas qui l'a peint, mais
tous
c'est pas
les festivaliers. Et ça marche plutôt très bien pour l'instant.
Ils sont preneurs.
Ils sont beaucoup preneurs, ils sont beaucoup super contents et on les oblige un peu à les prendre aussi, plus ou moins, de manière subtile, bien sûr.
Prenez ce cendrier.
Exactement. Et donc ça marche bien pour l'instant. Bonjour messieurs, dames.
Est-ce qu'on vous a déjà fait le speech?
Ouais, on est responsable. Pas aujourd'hui, ouais. Mais les autres années.
Eh bien tiens, voici un cendrier.
C'est un gros fumeur.
Et voilà, mais oui, ça je m'en doute. Et tous les tri se fait ici, on compte sur vous. Je suis agent brigadier Billy Joe Jones de la brigade des tri et je compte sur toi.
Allez, on vous laisse le passage.
Allez, bon courage. Et triez bien, les gars. On compte sur vous.
Alors là, on est à la table des campeurs, donc à la buvette restauration du camping. Voilà. Et donc, on sert plein de choses.
Plein de bière, plein de vin, plein de sandwichs.
Voilà, sandwich, petit-déj, des formules, ouais, petit-déj sucré, petit-déj salé, donc avec le faux plat et le bacon. Et puis après, bah ouais, en boisson, bière, vin, jus de pomme, limonade, voilà. Un peu comme un peu moins qu'au festival, mais les mêmes produits, quoi.
Donc les campeurs, ils ont un point restauration,
oui.
Et buvette dans le camping.
Voilà, tout à fait, qui est ouvert 24 heures sur 24.
C'est un peu du luxe, quand même.
Ouais, c'est du luxe. Ils ont aussi les douches chaudes, en tant que luxe, c'est pas mal. Et puis voilà, demain il y aura des petits concerts sur la mini-scène qu'on a installée. Et puis voilà, on a interdit les feux et on n'en fait qu'un grand feu de camp ici justement près de la table des campeurs pour déjà sécuriser l'espace et puis rassembler un peu tout le monde autour du feu le soir. Ça a bien marché l'année dernière.
Je fais partie de l'organisation du Festival des Verts Solidaires.
Okay. Ça existe depuis quand l'association Gaïa ?
Depuis 12 ans.
Et c'est quoi les actions de l'association ?
C'est né par le festival des Verts Solidaires et c'est principalement les Verts Solidaires à l'année, quoi. Après, il y a d'autres actions telles que la fête de la musique au 21 juin, des conférences à l'année au cinéma à Saint-Gobain, enfin des petites fêtes, on va dire, beaucoup plus petites que les festivals des Verts Solidaires. Okay.
Voilà. Les Verts Solidaires, c'est un festival, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas, voilà, il y a pas que ça derrière. Enfin, c'est pas juste un festival avec de la musique.
Non, carrément. C'est né un peu déjà il y a 12 ans du fait de vouloir donner des sous à des œuvres humanitaires. Et du coup, ça s'est né après petit à petit, mais voilà, il y a toute une vision globale de faire un événement pour faire la fête et tout, parce que c'est chouette de faire la fête, mais du coup on le fait bien, et puis c'est pas parce qu'on fait un événement qu'on va gaspiller des ressources pour juste faire la fête pendant 3 jours, quoi. Donc on essaye de trouver des alternatives à tout ça pour un équilibre entre un événement et puis 10 000 personnes sur 3 jours, quoi.
Il y a une transmission de valeurs aussi.
Ouais, carrément. On essaye en tout cas de par nos actions, les déchets, les toilettes sèches, les conférences qu'il y a dans la journée, les ateliers participatifs, de partager les valeurs qu'on a et du coup de refaire soi-même, apprendre à partager les savoirs et puis des choses assez simples. Gaïa, l'association, elle s'est créée pour le festival, mais du coup depuis plusieurs années, plein de membres dans l'asso, voilà, ont eu envie de faire autre chose que le festival, que de l'événementiel. En fait, on a envie de plus faire du durable comme nous on le fait dans nos vies personnelles. Et du coup, voilà, on aimerait bien faire ce qu'on fait au Verso, mais à l'année, avec moins de gens. Des conférences toutes les semaines, des ateliers participatifs, des petites fêtes, des concerts, des trucs comme ça, un site culturel, quoi. Donc, avec en mode fermé un peu pédagogique, éco-centre culturel, un peu d'une certaine manière.
Oui, ici, Verso, l'idée, c'est d'avoir de proposer une alimentation éthique. Éthique tant au point de vue de la provenance des produits, c'est-à-dire à privilégier maximum le local, les circuits courts. Bien évidemment, des produits biologiques, issus de l'agriculture biologique, pour la quasi-totalité, je pense. Voilà, on peut dire ça. Ils essayent aussi de proposer des choses faites main, naturelles, simples, goûtues, généreuses. Et nous, on essaye de venir s'inscrire là-dedans avec notre restauration végétarienne, dont on peut dire qu'on partage aussi cette éthique sur la localité des produits, le côté écologique, bio. C'est un projet que j'ai initié il y a 7 ans maintenant. C'est la 7e saison. Donc à la base, c'est parti. Bon, ça a démarré très petit. Hein. C'est parti d'une envie, tout d'abord, d'avoir une activité nomade, ambulante. Et aussi une activité un tant soit peu éthique, utile pour la nature, et l'environnement et les êtres humains qui la composent. L'idée, c'était vraiment ça, c'était de proposer un service de restauration végétarienne sur les festivals de musique essentiellement. Donc on avait déjà cette éthique de travailler avec des produits bio, des produits locaux, des produits de saison. Ça ne nous a pas lâché depuis. Donc on a démarré très petit et bon, on a essuyé pas mal de plâtre au début et évidemment les premières galères inhérentes à tout lancement d'activité. Et puis il y a eu un moment donné où mon cher Pim est arrivé dans le projet et on peut dire si moi je suis un peu la mère du projet où je lui ai appris à marcher et fait faire ses premiers pas, on peut dire que Pim c'est un peu le papa d'Exodia, c'est lui qui a aidé à la faire passer à l'âge adulte et qui commence à lui permettre de voler de ses propres ailes petit à petit. Alors le menu pour demain, eh bien donc ça va être à base de beignets de légumes. Nous on s'est spécialisé en fait dans les beignets de légumes sur les festivals, les beignets à l'indienne. Donc on va proposer plusieurs formules donc à base de beignets. Ça ira de la petite assiette de beignets avec une petite sauce aussi au pois cassé éthiopienne, jusqu'à des assiettes plus complètes avec des beignets, du riz, des crudités. On va faire un curry de lentilles aussi. On a une nouveauté cette année, on va proposer des milkshakes, ou plutôt des smoothies. Enfin, on s'est posé la question, milkshake, smoothie, la différence. Enfin, voilà, on va proposer quelque chose dans ce genre-là. On va faire ça, on va proposer du thé de chai à l'indienne aussi, pour avoir une formule à peu près complète. Alors les légumes, ils proviennent tous de l'Aisne, d'un maraîcher qui est du côté de Lerzy. C'est un ami d'enfance en fait, qui a participé aussi aux prémices du projet. C'est super de réussir à travailler avec lui. C'est un beau partenariat. Alors tout ce qui est produit sec, alors ici on est passé par l'épicerie de Voisse. Tant qu'à faire, on a privilégié la filière locale comme toujours. Donc voilà, tout le sec vient de chez eux. C'est une épicerie bio, ouais, c'est okay. L'épicerie bio de Saint-Gobain. Et donc ils travaillent aussi un maximum avec des filières courtes. On a de la farine de pois chiche qui est française, on a des lentilles françaises, on a des pois cassés français. C'est merveilleux. On a notre huile de friture qui est aussi biologique. On a galéré pour la trouver, mais on a réussi. Voilà. Donc non, ça va, on est intégralement bio sur cet événement. Ça fait plaisir. Alors ça s'appelle Exodia.
Pourquoi Exodia?
Alors, pourquoi Exodia? Pim, tu veux pas prendre le relais, là? Alors au début, ça s'appelait Exodus. Alors les anciens ici, ils connaissent, parce que quand on est arrivé ici au début, on s'appelait Exodus. Parce qu'à la base, j'avais des lox, voilà, on revenait d'Éthiopie aussi, c'est ça qui nous avait inspiré sur la cuisine végétarienne. Et voilà, Exodus, voilà, c'était la référence à la chanson de Bob Marley, la culture rasta, et puis aussi au côté itinérant. Exodus, l'exode, voilà, le côté, voilà, on cherche la terre promise, on se balade, on va à droite à gauche, c'était pour évoquer le côté ambulant de l'activité. Et puis après, on s'est rendu compte que c'était un peu trop connoté, ça faisait un peu trop rasta cool finalement. Les gens nous mettaient une étiquette un peu directe partout où on allait. Et donc voilà, et puis je sais pas, spontanément, à un moment donné, je me suis dit, tiens, Exodus, Exodia, c'est bien, c'est fluide, ça coule, c'est plus féminin, c'est plus doux, Exodia. Voilà.
Je suis sculpteur céramiste et puis j'expose aussi dans la région de Besançon en Suisse et puis je fais aussi des expos. J'ai fait un échange franco-tunisien avec la Tunisie, donc je travaille aussi différents matériaux en fonction des projets qui sont présentés à moi en exposition, surtout en extérieur. Donc j'ai travaillé le métal, le panneau de bois, le bambou, le verre, en fonction des projets, quoi. Mais globalement, je suis quand même céramiste au départ. C'est un atelier terre, et puis en fait, j'ai demandé aux festivaliers de cuire les carreaux à la méthode de la cuisson raku, c'est une cuisson japonaise. Donc les festivaliers vont émailler les carreaux, et puis ils vont les enfourner dans le petit four raku qui est là. Et puis après, avec tous ces ensembles de carreaux, moi je vais en faire une fresque. Puis je le laisserai pour le festival, pour l'association Gaïa. Okay. Je suis arrivé mardi et puis avec les bénévoles, on a fait tout plein de carreaux pour en faire une fresque après. Après, il faudra revenir voir ce que ça donne à la fin du festival.
Présidente de l'association Malabarouf qui crée des spectacles de rue et qui organise un festival d'art de rue en Guyane.
Okay. Pourquoi la Guyane ?
Parce qu'on habite là-bas, tout simplement, et qu'on avait envie de faire venir l'art de rue là-bas et puis de mettre aussi en valeur les différentes cultures de là-bas.
Et moi c'est David. On est venu avec un spectacle. Et on diffuse en Guyane et puis l'été en métropole en France. Ouais. Le spectacle, c'est une comédie, donc ça s'appelle La Grande Cagnotte. Et c'est l'histoire de deux gendarmes un peu fous qui vont essayer de toucher la population et de un peu recréer du lien entre la population et les forces de l'ordre. Évidemment, c'est de la déconnade. Hein, C'est surtout histoire de deux personnages.
Pour ça, il faut des sous, en fait. Alors, du coup, on a une grosse caisse qu'il faut remplir de pièces. Et voilà, quoi. C'est une collecte de fonds, en fait, pour,
voilà, c'est
pour
un peu,
nous, en fait.
C'est un peu une arnaque, aussi.
Faut pas tout dire.
Non, on dévoile pas la fin.
Il souffre douleur de ses camarades de classe. Il réussit à reprendre sa vie en main et à intégrer la gendarmerie afin de...
faire des thunes.
Non, Joseph.
Me venger?
Non plus. Enfin, Joseph, afin de faire respecter...
ma loi?
Presque.
La loi.
En entier, maintenant.
Faire respecter la loi?
C'est très bien, José. À ses côtés, Marcel Pinard, 40 ans, marié, deux enfants. Doté d'un flair légendaire, d'une vivacité d'esprit hors du commun et d'un physique exceptionnel, il réussit une carrière brillante qui lui a permis très récemment d'accéder au grade de sous-lieutenant.
On applaudit bien fort, s'il vous plaît.
Ensemble, ils ont mis en place une grande opération de communication au cœur des festivals les plus décadents. Leur mission, récolter des fonds afin de recréer du lien social et vous redonner espoir. Attention, ils sont là, maintenant, dans votre ville, Marcel et José. Pour vous, c'est la grande cagnotte.
Sur le festival, il y a quand même des valeurs écologiques assez fortes. Et voilà, l'alimentation, c'est des produits locaux, bio. On fait le tri des déchets. Et je me demandais en fait si c'était des choses qui vous parlaient. Et dans vos vies quotidiennes, est-ce que ouais, c'est des choses que
bah après,
vous portez,
ça nous parle, tu vois. On est tous les trois métro d'origine et tout machin. Donc oui, tu vois, sur tous ces trucs d'environnement, très sélectif et tout machin, on a eu pas mal de prévention, tu vois, quand on était petit. Après, en Guyane, c'est vrai que les problématiques sont pas exactement les mêmes. Donc, dans ma vie quotidienne, par exemple, tu vois, à Saint-Laurent, il n'y a pas le tri du verre. Et voilà, donc toi, si tu veux faire le tri du verre, tu sais que ça sert à rien. Et voilà. À Cayenne, par exemple, ils avaient commencé à mettre des poubelles à verre. Donc, pour que les gens prennent le réflexe, en fait, de le faire. Mais les entreprises de tri attendaient que ce soit vraiment effectif. Donc en fait, tout était remélangé derrière.
Il y a du verre en Guyane qui part en Europe pour se faire recycler, quoi. Et ouais, ça, c'est du bateau, c'est du trajet, c'est du fuel. Alors que voilà, quoi, les systèmes de consignes, c'est...
Là, si tu veux, la Guyane a quand même beaucoup de retard sur tous ces trucs-là. Donc, après, la problématique se pose quand même, hein, parce que puis comme le fait qu'il y a l'Amazonie, la nature vachement forte et tout, tu vois quand même sur les fleuves, ça se lâche un peu, quoi. Les gens jettent.
Après, selon moi, jeter n'importe où, c'est pas vraiment un problème de pollution, quoi. Le problème de pollution est dans la consommation, et dans le fait d'acheter, c'est déjà trop tard, t'as déjà pollué, quoi. Après, recycler, c'est un peu faire un geste une fois qu'on a consommé, quoi. Mais le travail à faire, et si la lutte elle se place quelque part, c'est bien dans la façon de consommer, la façon d'acheter, quoi.
Après, nous, ça nous parle particulièrement parce que, enfin, nous, à l'échelle individuelle, en Guyane, voilà, on a des toilettes sèches, on récupère l'eau de pluie pour se laver, faire la vaisselle, et puis même boire aussi, on boit l'eau de pluie. Donc bah voilà, ici on se sent bien, on est un peu chez nous, quoi.
Quand j'étais petit, il n'avait pas d'amis. On me laissait seul et on se foutait de ma gueule. Il n'avait pas d'amis, quoi. Et petit à petit, j'ai un peu grandi. Et je me suis demandé que faire de ma vie. Je n'avais que le brevet, oh, car l'école m'ennuyait. Oh, tout ça pour vous dire que l'avenir m'effrayait. Mais un jour Marcel m'a dit:
hey, dis donc José, pourquoi tu viens pas juste me rejoindre dans la gendarmerie.
C'est la classe, non?
Il y en a qui ont pris des souplesses dans la gueule.
Ça, c'est une très bonne idée, ça m'évitera de cogiter. J'ai donc décidé de m'engager. Plus facile à dire qu'à faire, je n'ai pas la taille réglementaire. Mais quelqu'un m'a pistonné, on ne saura jamais qui c'est. Logement, fonction, salaire plutôt bon. Et plein de nouveaux compagnons. Avant j'étais délaissé, maintenant je suis armé, accompagné et je vais me venger. 1, 2, 3, 4.
Pour le festival des Verts solidaires de Saint-Gobain, tous les ans, la bibliothèque sociale de Merlieu, qui est une bibliothèque animée par le groupe de Kropotkine de la Fédération anarchiste dans l'Aisne, tient à être présent. Bon, c'est pas qu'on vend beaucoup de livres ici, puisque bon, les gens ils sont plutôt... musique, voire alimentation pour le... Mais bon, on fait de belles rencontres, et puis bon, toi, il fait toujours beau quand il pleut pas. Et voilà, nous, ça nous convient tout à fait de présenter ce qu'on fait dans notre village de Merlieu, qui est situé à quelques kilomètres de Saint-Gobain. Donc, au niveau de la culture en Picardie, quand on en parle, c'est essentiellement celle de la betterave. D'ailleurs, même le département de l'Aisne, il a pris la forme d'une betterave, hein, c'est pas pour rien. Hein. Et nous, on pense que la culture, ça peut être aussi autre chose que la culture intensive de betterave. Et donc, on organise à la bibliothèque sociale, une fois par mois, de janvier à juin, des rencontres avec des écrivains. Donc, on fait aussi, une fois par an, un festival documentaire où on présente une dizaine de films, courts-métrages, en invitant des réalisateurs. Bon, c'est suivi de débats, etc., avec repas départageux, enfin, un truc assez convivial et tout, quoi. Et à prix libre, bien sûr. Et bon, et une fois par an aussi, on organisait un salon du livre anarchiste. Bon, cette année, on le fait pas, on organise dans le cadre de la fête du livre communal un stand qui est assez conséquent et avec des rencontres aussi. Et notamment cette année, il y aura Gérard Mordia qui viendra présenter en avant-première une sautie hein, qu'il a fait sur Marine Le Pen et qui s'appelle Moi présidente. Enfin, c'est pas dit que c'est Marine Le Pen, mais bon, chacun reconnaît, ouais, ça se devine. Et voilà, il y aura aussi une conférence débat avec Jean-Pierre Tertrais sur la décroissance, voilà, qui s'intitulera, je pense, « Jusqu'ici, tout va bien ». Voilà, et qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'on fait encore? Bon, on est sur un tas de projets. Bon, alors là, j'ai parlé du côté culturel, mais aussi le côté politique. On est un groupe de la Fédération anarchiste. Donc, la Fédération anarchiste, c'est une organisation où il n'y a pas de pouvoir central. Donc, c'est tous les groupes qui sont autonomes, qui se fédèrent pour arriver à faire des choses un peu plus conséquentes. En fait, les anarchistes sont contre le pouvoir. Ils ne sont pas contre l'organisation. Il n'y a pas plus organisé qu'un anarchiste. Si tu ne veux pas avoir un chef, il faut que tu sois capable d'être responsable tout le temps, 24 heures sur 24. Donc en fait, Élisée Reclus disait « L'anarchiste, c'est la plus haute expression de l'ordre ». Donc effectivement, aussi bien la droite que la gauche ont intérêt à discréditer les idéaux libertaires, les idées anarchistes, parce que aussi bien la droite que la gauche, en fait, marchent sur le principe d'une hiérarchie. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont représenter le peuple, etc. Nous, on pense que le peuple est assez grand pour se représenter lui-même et qu'on n'a pas besoin de chef, on n'a pas besoin de gens qui pensent à notre place. On est des êtres libres et responsables et on a nos problèmes et on est capable de les régler.
Eh bien, bonsoir. Alors, bonsoir.
Alors, bonsoir, vous avez bien?
Ah non, merde, je me suis trompé de région. Je sais pas si on va réussir à raconter autant de conneries que Didier Super, mais... On va commencer par une reprise de Carla Bruni pour pas trop vous dépayser. Voilà.
Réfléchissez à des blagues.
Non, on va commencer par la fin.
Voilà.
Toi, tu aimes Carla Bruni, je le sais. Tu criais tout à l'heure devant son concert.
C'est bizarre, parce que Carla Bruni est Alpha Blondie. Pendant que...
c'est pas le même niveau.
Et la compète est lancée. En fait, c'est parti.
Eh bien, bonsoir.
Bon, ça va ou quoi? Tout le monde est tranquille, là, c'est bien, on est dans la forêt. Ça tombe bien, on a envie de forêt, mesdames et messieurs.
Et en plus, on va avoir le privilège d'accueillir la nuit, nous, ça va être parfait.
Bring on the night.
Give me the night.
Allez, j'espère que vous aimez le jazz.
Caramba!
Zozo! On est bien là. Il y a des loups solitaires ici. Mais comment ça fait l'appel du loup solitaire?
Ça fait scrooge.
Oh non, plus fort, plus fort.
Oh. Mesdames et messieurs, au saxophone bariton, Manu.
Vous êtes toujours sur Plume FM, dans Plume bat la campagne.
Du coup, en fait, on est la coopérative Andine qui existe depuis 30 ans. On milite pour une économie équitable. Donc, on structure nous-mêmes les filières. On apporte des produits artisanaux et alimentaires. On se démarque d'équité tout le long de la filière, pas uniquement avec les producteurs. Donc, nous, on est constitué en coopérative parce qu'on veut un modèle économique. On refuse la voie caritative. C'est-à-dire que pour nous, les produits sont qu'un prétexte à l'échange humain. Autour de ces produits-là, on se rend compte avec les producteurs. Le montage de filières, c'est un processus qui est long. C'est-à-dire que nous, on met 2 à 3 ans entre la première rencontre avec un producteur, avec un groupement de producteurs. On travaille uniquement avec des groupements de producteurs et pas avec un producteur isolé, pour qu'il y ait un impact plus fort. Et ça, c'est long. C'est-à-dire qu'on met 2 à 3 ans. Pourquoi ? Parce que c'est le temps qu'on se rencontre. On échange. Autour de ce produit, les gens amènent leur savoir-faire, sur technique, sur le produit. Nous, on amène leur savoir-faire par rapport à la décomposition du prix, au calcul du prix de revient. Une fois qu'on a calculé tout ce prix de revient, c'est vraiment long parce que ça ne va pas de soi en fait. C'est-à-dire que beaucoup, on travaille avec les plus démunis, donc ça fait partie de notre cahier des charges. Et du coup, en fait, sur l'économie informelle, beaucoup de gens ne se payent pas leur travail. C'est-à-dire que moi, je vais acheter ça 2 euros, 1 euro. Bon, ben voilà, ça c'est le prix. Mais ils ne comptent pas, eux, leur coût du travail. Et ça, c'est des vraies questions, parce que du coup, tu te dis, mais à quelle hauteur on rémunère le travail? Du coup, on fait appel à des organisations syndicales, patronales sur place, pour savoir quel est le niveau de vie décent sur place. Et du coup, après, on se dit, bon, ben, la plupart du temps, quand on ne sait pas trop, on prend le revenu médian donc d'un instituteur. On dit, tiens, ça c'est le taux horaire auquel on va se rémunérer. Donc après, ben, tout ce temps-là aussi, on veut que les gens après viennent aussi sur place en France. Donc il y a des représentants des coopératives qui viennent aussi en France pour qu'on échange, qu'ils voient notre réalité, notre vie sur place, la réalité économique. Et comme ça après, on, tous les acteurs de la filière, donc que ce soit le producteur, le groupement de producteurs, donc soit une coopérative ou une association, l'exportateur, l'importateur, donc le transiteur, et nous. Et après, c'est un peu plus difficile d'aller jusqu'au détaillant, parce qu'ils sont tellement multiples. Parce que nous, on est grossiste, donc on va à plein de boutiques, et après, on revend nos détails. On se rencontre tous ensemble, et là, on discute ben, des marges. Comment on peut répartir au mieux les marges? Parce que l'intérêt, c'est que ben, les gens puissent vivre dignement de leur travail là-bas, et nous, ici aussi, tout simplement. Alors après, nous, notre, on se veut comme créateurs de liens, créateurs de ponts. C'est-à-dire que sur place, on fait en sorte que les producteurs aussi se rencontrent. On leur donne les outils pour qu'ils s'émancipent. On n'est pas là en avenir à dire ben, voilà, que tu dois faire comme ci, comme ça. Non, c'est on te donne les outils pour ben, que tu puisses vendre aussi sur place. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre l'exemple du chocolat. Le chocolat, on fait transformer, nous, on importe la pâte de cacao. On n'importe pas les fèves. Tout le monde importe les fèves. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, c'est moins cher. Et du coup, ils transforment après la pâte de cacao ici en France. Nous, on veut que la valeur ajoutée, elle soit aussi là-bas. Et une fois qu'on a fait la pâte de cacao là-bas, eux, ils peuvent faire du chocolat, des tablettes de chocolat, qu'ils revendent sur les marchés nationaux et locaux. Et du coup, ben, ça leur donne aussi voilà, les outils pour vivre, quoi, tout simplement. Et ça, c'est un thème important. Et du coup, sur place, nous, ce qu'on veut faire, c'est du circuit court, international et local. Et du coup, même créateur de liens, je te disais, même à Paris, donc à Saint-Denis, dans nos locaux, on a un jardin partagé pour les gens autour, on a un lieu de distribution d'AMAP, on fait ben, des portes ouvertes sur des thèmes transversaux. Que j'importe, ça peut être sur le nucléaire, ça peut être sur les circuits courts, sur l'agriculture bio, parce qu'on veut que cette coopérative soit un outil pédagogique. Et c'est pour ça que nous, on travaille en toute transparence. C'est ça notre garantie, notre label, si tu veux, c'est notre marque. C'est-à-dire que nous, on connaît exactement tous les producteurs. On affiche une fiche filière sur notre site internet et la décomposition des prix tout le long de la filière. Et ça, dans le monde de l'équitable, on est les seuls à le faire. Et en tout cas, il y a certaines d'autres acteurs qui vont prendre un produit, qui vont faire la décomposition du prix. Ils vont jamais décomposer les prix sur l'ensemble des produits. Et nous, c'est pour ça qu'on veut que, ben, que les citoyens se réapproprient la vie économique. Et c'est pour cela qu'Andine existe et qu'on peut faire changer les choses. Ouais, c'est comme ça qu'on... L'exemple du sucre. Alors, je vais t'expliquer. Là, c'est du sucre de canne. Bon, c'est du sucre complet.
Okay.
Mais on n'a pas le droit d'appeler ça sucre complet.
Donc, du sucre complet.
Donc, c'est-à-dire que c'est du sucre intégral. Comment c'est produit? Donc là, on est dans la région du Pichincha, dans la province de Quito. Donc on est à 2h30 au nord-ouest de Quito. Donc on est vers 2008 d'altitude. Enfin, 1008, pardon, c'est 2008, c'est à Quito. On est vers 1008 d'altitude. C'est des régions très vallonnées, c'est magnifique. Et du coup, tu as la canne à sucre qui pousse là-bas. Donc ils coupent toute la semaine, ils coupent la canne. Donc c'est produit complètement naturel. Donc là, c'est estampillé bio. C'est certifié éco-cert. Bon, ça c'est un concept de blanc, hein, la certification. Parce que tu demandes, eux ils te disent, bah, ça pousse tout seul, quoi. C'est pas organique, ouais, non, c'est normal, quoi, tu vois. Du coup, donc ils coupent la canne toute la semaine. Et le vendredi, en fait, donc chacun a ses petites fincas, donc des petits endroits, des petites cases comme ça. Où en fait, quand ils ont récolté la canne à sucre, tu la broies. Là, tu en extrais le jus de canne, quoi. Donc, qui est très fort en sucre et tout ça. Par exemple, quand tu produis, tu te bois ça, un petit verre de jus de canne, et paf, tu es reparti, quoi. Et du coup, tu en extrais le jus. Là, tu mets le jus dans des bacs. La canne, l'écorce des cannes, tu l'as laissé sécher. Tu réutilises cette canne que tu as fait sécher pour attiser les feux. Donc, ça marche en circuit fermé. Et du coup, en fait, de bac en bac, tu fais chauffer un préchauffage très doux pour conserver tous les bienfaits, tous les minéraux, les fer, les vitamines qu'il y a dans le sucre. Et pour la petite anecdote, avant qu'il y ait le raffinage du sucre, en fait, il n'y avait pas forcément de caries parce que le sucre avait tout forcé. Il avait toutes ses propriétés, en fait. Du coup, ce sucre-là, donc, il est fait. Donc, après, après tu fais de bac en bac et tu sors dans un bac en inox hors du feu. Là, tu secoues avec ta pelle. Pouf, tu as ton sucre. Là, tu mets dans des gros sacs de 50 kg. Le producteur revend son sucre, comme ça en vrac, à la coopérative dont il fait partie, dont il est membre, dont il est socio, qui est sociétaire de sa coopérative. Du coup, la coopérative rachète ce sucre-là. Il mélange entre tous les producteurs pour homogénéiser. Mais c'est vraiment un sucre de terroir. C'est-à-dire, c'est ça, c'est toujours des produits qui sont du terroir, qui viennent d'un endroit précis, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne travaille pas avec la grande distribution, parce qu'ils nous demanderaient des volumes tellement immenses qu'il faudrait faire appel à plein de coopératives, ce serait plus des produits de terroir. Nous, c'est ça qui nous importe. Et du coup, la coopérative rachète et après revend, donc, et en redistribuant le revenu aux socios, quoi. Et revend sur les marchés locaux, nationaux. Donc, par exemple, eux, ils travaillent beaucoup avec une association qui s'appelle Camari, qui fait du commerce équitable, plutôt sur du national, mais qui travaille aussi avec l'Allemagne et tout ça. Et du coup, après, la coopérative revend ça à l'exportateur. En fait, c'est nous qui commandons, mais l'exportateur s'occupe des soucis de transport. En fait, tous les produits qu'il y a en Équateur, ils récoltent ça, ils mettent tout ça dans un conteneur. Nous envoient ça en France, on récolte, mais nous, on prépaye les produits à 50%. Nous, on a quand même un besoin de fonds de roulement qui est très fort, une trésorerie très très tendue parce qu'on doit prépayer les produits en amont avant qu'on les reçoive. Une fois qu'on les a reçus, bon, on reçoit un conteneur, on reçoit, je sais pas, 25 tonnes de sucre. Et après, le temps que nous, on école les stocks, il faut que tu fasses payer. Mais en fait, il y a tout ce passage-là, en fait, où on a un besoin de fonds de roulement très fort. Et ça n'a jamais été couvert par les banques.
D'accord.
Bien entendu. Et du coup, nous, on travaille avec des produits qui viennent d'Amérique du Sud, d'Afrique, du Moyen-Orient avec la Palestine et aussi de France. Parce que pour nous, l'équité ne s'élimine pas à des échanges nord-sud. Nous, ce qu'on veut, c'est l'équité dans l'économie. Voilà. En Andine, ça existe depuis 87, depuis 30 ans. C'est né la même année que moi. Tu vois. C'est parti. Le fondateur vivait en Colombie. Il était ça faisait 4 ans qu'il vivait dans une petite communauté colombienne. Il était infirmier, quoi. C'était une petite mission humanitaire. Et en fait, il s'est rendu compte que les Colombiens fonctionnaient beaucoup avec du troc et vraiment équitable, quoi. C'est-à-dire que tout le monde était rémunéré au juste titre. C'est-à-dire que les gens de la selva, de la forêt, les gens de la côte, les gens des Andes se réunissaient dans des marchés et ils troquaient. Du coup, il s'est dit, putain, en fait, ce serait bien de faire la même chose en international pour que tu puisses créer ton emploi. Que lui, on crée notre emploi. Donc, on a créé Andine en France, en effet miroir avec une entreprise, une coopérative qui s'appelait Inter Express en Colombie, qui maintenant n'existe plus malheureusement. Et du coup, pourquoi on a créé Inter Express en Colombie? C'était parce que vu que c'était que de l'économie informelle, nous, quand on envoyait l'argent, les gens, ils n'avaient pas forcément de banque. Ouais. Du coup, il fallait constituer une personne morale qui reçoive ces sous-là et qui... Voilà. Et du coup, travailler avec le plus démunis, faire en sorte que chacun vive dignement de son travail, ici et là-bas, mais surtout, travailler ensemble, main dans la main, sur un pied d'égalité. C'est ça qui est fort. C'est que nous, on ne se constitue pas en tant que blanc, on arrive en te disant, on va venir t'aider. Ouais. Non.
C'est pas de l'humanitaire, en fait.
Ben non. Bah parce que quand tu arrives en disant moi j'arrive, je viens t'aider, déjà il y a un positionnement qui est différent, quoi. Alors nous, on traite d'égal à égal avec des producteurs qui viennent de Palestine, de France, de Bretagne, qui viennent de l'Ardèche, ou avec des Touaregs nigériens, avec des gens de la côte en Équateur, ou qu'importe. Nous on traite de la même façon. Et ensemble. Et faire en sorte de bouger les choses ensemble. Alors, donc là je t'ai présenté le sucre, on a du riz complet. Après on a des conserves de produits de la mer qui viennent de Bretagne, Saint-Gué et tout ça.
Ok.
C'est une des dernières, c'est appelé Océane Alimentaire. Donc c'est une des dernières conserveries artisanales en France. Donc du coup c'est pour ça qu'on travaille avec eux. J'ai du café qui vient de la vallée de Cauca, près de Popayán. On a du quinoa qui vient de la région de Riobamba en Équateur. On a de l'huile d'olive qui vient de Palestine. Donc là, c'est vraiment un acte solidaire. On marche très très peu. Là, on est vraiment sur de l'économie solidaire. Tu vois. Après, on a le savon à l'huile d'olive, on a de la vanille qui vient de Madagascar, on a des savons qui viennent d'Inde, là c'est pas nous. On a un peu de mal à travailler avec l'Asie, bizarrement. Parce qu'en fait, nous, on ne fait jamais de sourcing. Donc, c'est au gré des rencontres. C'est ça qu'en fait, qui fait la force du projet. Du coup, on a des savons qui viennent d'Inde ayurvédique, on a des savons qui viennent de Naplouse, faits avec l'huile d'olive qu'on importe. Donc tu vois, nous, c'est des créateurs de liens, on fait rencontrer. Par exemple, quand ils font le chocolat, les producteurs de cacao utilisent le sucre là, pour après faire la pâte de cacao pour faire le chocolat. Quoi. Après, on a des bijoux Touareg en argent, on a un peu de l'information, quelques livres et tout ça, la bio entre business et projet de société, dont l'un des fondateurs d'Andine a participé à l'écriture. On a de l'eau florale et de l'huile essentielle de lavandin qui viennent de l'Ardèche. On a plein d'instruments de musique qui viennent du Niger, du Guatemala, de Colombie, du Pérou. On a des mangues séchées qui sont faits au Burkina Faso et des noix de cajou aussi qui sont faits au Burkina Faso. Donc elles sont coupées toutes petites, comme ça en fait. Il y a moins de pertes à la production autour du noyau et à la peau. Parce que tu sais, normalement, on importe souvent des grosses languettes comme ça. Donc ils les prennent, les mangues, quand elles ne sont pas mûres. Ils font des languettes comme ça, des grosses languettes. Ils importent que ça et du coup, ils perdent énormément du fruit, quoi. Alors que nous, on coupe plus tout petit. Alors par exemple, comme je te disais tout à l'heure, ça, les femmes burkinabè, elles ont fait « Ah ouais, mais c'est chiant et tout, ça met beaucoup plus de temps et tout. » Oui, mais mesdames, vous êtes payées à l'heure. Ah bon? Ah d'accord. Et du coup, elles ont complètement changé la façon. Les mangues pourrissent au Burkina Faso tellement il y en a, quoi. Et du coup, nous, on les prend mûres déjà. Donc du coup, quand tu manges les mangues séchées, elles sont pleines de saveur parce qu'elles sont récoltées mûres. Ça a l'air con à dire, mais c'est comme ça. Et ouais, voilà. C'est un peu le tour de ce qu'on a. On a de l'artisanat guatémaltèque.
Pardonnez. Étienne est décollé, il ne jamais décollé. Pardonnez. Voilà. Vas-y, par le nez, tu respires par le nez. Tu t'arrêtes, hein, c'est pas grave, hein, tu t'arrêtes. Hein. Pour l'instant, on n'en est pas. C'est bon. C'est bon. Bon, souffle moins fort. Moins fort. Raccourci pour que j'aille. Vas-y. Alors, essaye de faire le cheval dedans. C'est bon.
Alors ça veut dire moi avec toi. Alors notre idée c'était surtout de ne pas faire d'assistanat mais de travailler avec les personnes. Donc on a construit un village à Madagascar. Enfin, au départ on pensait que c'était modestement un quartier de 10 maisons avec 10 familles en plus ou moins grande difficulté sociale. Donc on a construit des maisons avec eux, c'est-à-dire que c'est le père de famille qui a construit sa maison. Donc on l'a accompagné. Il a du coup eu une petite expérience professionnelle, ce qui lui a permis de trouver du travail après. Et pendant ce temps-là, on a appris aux femmes à faire du jardinage et du petit élevage. Le contrat, c'était aussi d'envoyer les enfants à l'école. Donc au bout de 10 ans, ils vont bientôt être propriétaires des maisons, mais pas du terrain, pour pas qu'il y ait des promoteurs immobiliers qui viennent les embêter. Voilà. Et puis on a aussi fait une grande maison communautaire, où il y a beaucoup de formations, des activités, des fêtes d'anniversaire, des choses comme ça. Et puis un atelier de menuiserie, un centre de gestion. Et au bout de 2 ans, le village était terminé. L'accompagnement s'est fait, a duré plus longtemps que ça. Et le maire du village qui nous avait donné le terrain nous a demandé de construire une école pour 300 enfants. Donc on a fait un groupe de travail avec les gens de la municipalité, les directrices, les représentants des parents d'élèves, donc des réunions, groupes de travail, et puis ensuite on a construit l'école en continuant les chantiers formation. Parce qu'on insiste énormément sur les formations à tout niveau. Donc pour les hommes, ils ont, du coup pour l'école, ils ont continué à se former. On a pris aussi des gens de l'extérieur, pas seulement du village. Mais on fait des formations. Les femmes ont voulu être formées en peinture, en pose de vitre, etc. En général, elles travaillent presque mieux que les hommes, d'ailleurs. Elles sont plus minutieuses. Et puis, les gens, en attendant de construire leur maison, ils étaient logés dans des petits chalets en bois. Et il y a des artisans qui se sont installés là, dans les 5 chalets. Ils ont construit leur maison derrière. Et puis donc, il y a tout un pôle, en fait, on a beaucoup de visiteurs, on a une centaine de visiteurs par mois, donc qui visitent le village, qui visitent les artisans, qui achètent directement aux artisans, et ensuite qui visitent l'école. Alors, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que c'est un éco-village, c'est-à-dire qu'on a mis tout de suite en place récupération de pluie, toilettes sèches, compost, évidemment, culture des jardins sans engrais, avec le compost, ça allait. Et puis à l'école, on a même des toilettes solaires, c'est un petit peu différent des toilettes sèches. Et on fait aussi l'assainissement des eaux usées sur filtre planté.
C'est quoi les toilettes solaires?
Alors, toilettes solaires, c'est-à-dire que il y a une séparation des urines et des sels. Alors on sait que pour arroser le jardin, il faut diluer à 50% les urines. Et puis les matières, elles tombent derrière des plaques qui sont peintes en noir et exposées au soleil, donc elles se dessèchent. Et le concierge de l'école, il vide à peu près une fois par semaine. C'est pas trop de travail, il va mettre sur le compost, c'est pareil. Donc il n'y a pas de sciure, c'est plus facile d'utilisation. Et puis voilà, ça marche bien. Alors on a aussi une ferme pédagogique derrière l'école. On a des petits jardins pédagogiques pour chaque classe. On a 2 maternelles et puis 5 primaires comme en France. Et puis on a un grand jardin qu'on appelle le jardin des parents. C'est le concierge aussi de l'école qui est responsable du jardin, mais le ministère de l'Éducation nationale nous a payé un deuxième poste de jardinier. C'est une dame, une jardinière. Et on demande un petit coup de main aux parents d'élèves par roulement pour alimenter la cantine de l'école, parce qu'on s'est aperçu que toutes les cantines à Madagascar étaient subventionnées par des ONG. Quand il n'y a plus de subvention, on arrête, et puis c'est tout, tant pis pour les enfants. Donc on a dit, nous, on vous donne les moyens d'être autonomes. En fait, pour rejoindre l'association, c'est 15 euros l'adhésion, 15 euros pour l'année. Donc on a un site, yocontigo-espérance.org, où on a tous les renseignements, les photos, les lettres de nouvelles, des petites vidéos, des choses comme ça. Voilà, avec tout l'historique du village.
Et du coup, c'est une association qui se situe à Compiègne?
Oui, c'est parce que j'habite Compiègne et je suis la présidente, donc c'est basé à Compiègne. Le couple qui travaille là-bas est dans la région de Soissons. Dans le CA, on vient un petit peu partout, il y a des gens de la région parisienne aussi. Voilà, on est un peu plus de 100 adhérents, on n'est pas une très grosse association. Mais voilà, on fait beaucoup de choses et puis...
Je m'appelle Safia Barlow, je suis à la Malmaison dans l'Aisne. Je suis une des rares paysans boulangers. Qu'est-ce qu'un paysan boulanger? C'est quelqu'un qui va cultiver lui-même ses céréales. Donc il a des terres, il est agriculteur aussi, il est paysan. Et après, il va transformer. Donc il va avoir un moulin à meule de pierre essentiellement. Et il va transformer en farine. Et après, il passe à la deuxième transformation de la farine en pain, en gâteau, pain d'épices, des pâtes alimentaires. Moi, j'en fais aussi. J'ai choisi aussi cette option-là, comme Inès de Rave dans la Somme. Et voilà, donc moi je fais ça, je ne travaille que de la farine, ma farine c'est de la T80 minimum, après je monte au-dessus s'il faut. Je cultive donc, ma spécialité c'est du grand épeautre, en variété ancienne non hybridée, c'est très important, je suis dans cette filière pour contrer justement, c'est ma manière de militer contre les fameux blés modernes. Parce que je pense que la céréale d'avenir, parce qu'il y a de plus en plus d'intolérance par rapport au blé moderne, c'est de combattre ça. Et pour moi, cette céréale, c'est vraiment une céréale d'avenir, parce qu'elle se contente de très peu de nutriments au niveau du sol, donc elle prend peu, mais par contre, elle donne beaucoup. Et elle s'adapte facilement à des terres pauvres, donc il n'y a pas besoin d'engrais ou autre. Alors, agronomiquement aussi, elle est magnifique, mais alors nutritivement, elle est extraordinaire parce qu'elle a un pouvoir astringent sur le système sanguin. Ça soigne beaucoup tout ce qui est stress, c'est-à-dire maladies cardiaques qui sont liées au stress, aux peurs, aux angoisses, parce qu'elle est très riche en magnésium et elle a un neuroleptique en faible quantité, mais qui est là, et c'est pour ça qu'on l'appelle la céréale de la joie. Donc c'est Hildegarde, une moniale bénédictine rhénane, qui a un peu mis ça au goût du jour au XIIe siècle, hein, donc ça date un petit peu. Et elle a écrit plein de choses là-dessus, qu'elle a reçues par révélation divine, hein, c'est ce qu'elle dit hein, dans ses écrits, et elle a fait toute une apogée sur justement les apports bénéfiques de l'épeautre. Alors il y a beaucoup de gens confondent que l'épeautre, il y a le petit et le grand épeautre. Donc là-dessus, j'aimerais faire une petite rectification. Ce qu'on appelle communément le petit épeautre ne peut pas se cultiver justement dans les pays du Nord. Ça se cultive essentiellement dans le Sud-Ouest pour ce qui est de la France. Il n'existe qu'une seule variété de petit épeautre et on appelle ça plutôt l'engrain. En fait, l'engrain, c'est la mère de toutes les céréales. En découler par hybridation naturelle les autres céréales avec le blé. Donc c'est l'engrain avec le blé qui ont par hybridation, après encore hybridation d'hybride, naturellement bien sûr, hein, c'est pas manipulé, hein, ça a mis 10 000 ans quand même hein, pour par exemple l'épeautre tel qu'on le connaît aujourd'hui à 10 000 ans. Donc c'est un vieux pépère qui est toujours là, qui était très cultivé jusqu'au 19e siècle. Et puis les blés modernes sont arrivés après 1830. Et donc dans le cadre d'associations comme Semences Paysannes, comme la Déarne, on essaye de multiplier les anciennes variétés de blé, mais aussi on essaye de préserver les variétés anciennes d'épeautre. Et notamment on en a 5 qui sont non hybridées et il y en a 2 qui sont faites par hybridation naturelle, mais par hybridation non naturelle. Et qui donne la possibilité justement de garder cette banque de semences et de ramener quelque chose de naturel et vraiment qui a été engendré par la terre elle-même et jusqu'à l'assiette du consommateur.
Thank you. D'accord. Et tu sèmes du sable, et tu mets du sable, et tu remets du sable dans le sillon, et quand tu mets des graines de radis, tu mets du sable dans les graines de radis.
Et après, on fait peut pas ramasser les graines et la mettre.
Absolument, on ne se revoit plus. Ouais, c'est ça. C'est le jeu. Oui, exactement, on va éviter parce qu'on fait 25 ans qu'on y va, on a un peu marre de monter les marches.
Mais comment ça se fait que...
Bah parce que c'est... si tu contrôles la semence, tu contrôles les peuples, c'est pas très compliqué, donc c'est enfantin. Que tu manges bio ou pas bio, le point de départ dans ton assiette, demain, après-demain, après-demain, c'est la semence. Tu contrôles la semence, tu contrôles les peuples. Je fais ce que je veux de toi dans ton assiette.
Ah oui, top. C'est exactement ça.
Hein. C'est pas compliqué. Et c'est l'alimentaire, et vu que tu jeûnes pas pendant 65 jours...
Mes parents ramassaient les graines, hein. Ouais. Tout ce qui montait en graines, l'année d'après.
Mais oui, mais maintenant, ils te vendent des hybrides fins. Donc c'est des variétés stériles et dégénérées qui t'obligent à retourner au parc tous les ans. Voilà. Tiens, lui, il peut te faire une interview.
Bonjour, ami Cocopelli.
Il va jouer à 15h. Tiens, regarde. Il connaît aussi bien quoi, parce que moi, je suis routier. Lui, il va faire... Il a l'habitude de les télé plus que moi, tu vois. Les télé, les radios. Et il joue à 15h cet après-midi.
C'est le responsable des médias.
Oui, exactement. C'est l'homme de la communication de chez Cocopelli.
C'est ça, le Cocopelli. D'ailleurs, c'est une exclu, Jocelyn, tu sais pas. Hein, j'ai mis, tu vois, avant les humoristes, sur leur flyer, ils avaient des rires et chansons, tout ça. Mais moi, j'ai mis Cocopelli, sans vous le dire. Bah, l'année dernière, quand même.
À 15h, un truc extraordinaire.
Ils m'ont donné un carton de graines.
Et j'ai fait pousser
chez moi dans un dôme géodésique et j'ai payé avec l'argent du spectacle.
Et il fait
pour partir en couche chaude les plantes, c'est des potirons, des tomates, des courgettes, des trucs comme ça. Et j'ai donné à la fin du spectacle pour les cités. On avait fait un truc qui s'appelait la petite prairie dans la cité. Et c'était la deuxième année l'année dernière. Et on a donné. La serre, c'est simple, elle faisait 25 mètres carrés, quasiment rempli. Et tout le mois de mai, en 5 dimanches, on a donné des plantes Cocopelli, sans OGM, sans être. Voilà.
Grande salade,
là le framboisier. I count on automate devant le potiron, je dis. Chaque taille pelouse colonisée pour manger. Composté, faut des outils négros, va vendre ta télé. Initiative populaire, il faut les couilles pour le faire. L'union fait notre force, l'individualisme fait les affaires. Tu peux placer ta confiance dans la terre nourricière. Faut se lever, essayer mais surtout se motiver. Ouvre tes yeux, viens constater. Pousse une prairie dans la cité. Chimie pour t'aider légumes à la maison. Fruits à profusion et viande pas chère remplie de poison. Mercure dans le poisson, faune et flore que nous encrassons. Monsanto mérite la prison, je veux du naturel à foison. De saines semences, purin d'ortie pour une bonne moisson. Des fleurs anti-sionistes au parfum d'un monde sans franc-maçon.
Joe Damas, et pardon, je mange une ange, et mon spectacle s'appelle Retour vers la nature, où j'y raconte, entre autres, le cheminement entre un jeune de cité qui finalement se retrouve à acheter un terrain en fait, à la campagne, parce que vivre en ville, dans une cité ou pas, ça n'a aucun sens. Donc voilà, je raconte ça et puis c'est un tableau de ce que je, de ma vision du monde aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois ombragé, mais avec une pointe lueur d'espoir au bout, j'espère. C'est à peu près ça le pitch.
Ça fait combien de temps que tu fais ce spectacle?
Ça fait 2 ans, je pense. Donc ça peut paraître long, mais en même temps, je ne suis pas un professionnel, j'ai appris sur le tas. Et donc, il y a sur 2 ans, 1 an et demi de rodage. Je me considère en fin de rodage. Il y a encore des moments où j'appréhende, je ne suis pas super à l'aise et tout. Mais c'était long le début, la mise en place. Pardon. Et du coup, voilà, j'ai joué, ça c'est miraculeux, j'ai joué sans pub, j'ai des flyers que depuis peu. Et j'avais pas de flyer, quasiment pas d'affiche, aucune com. J'ai joué donc 1 an et demi sans pub. Juste avec malheureusement les sites Facebook, tout ça, en disant ouais, je joue là. Puis ça se remplit, ça discute le bouche à l'oreille, puis j'ai réussi à jouer comme ça. Et c'est un spectacle que j'appelle satisfait au graphe. Je dis ce que tu veux. Enfin,
ok, c'est
au chapeau. Ouais,
c'est plutôt bon signe quand même de pas avoir besoin de faire de pub. Pour pouvoir passer et avoir quand même des gens qui te
venir. Après, est-ce que c'est le fait qu'il y a vraiment, et c'est le cas, on voit dans ce festival, une vraie émergence de, d'une France d'en bas qui veut plus du capitalisme, ou j'ai du talent. Je pense que j'ai du talent.
Non,
je pense que c'est que les gens ils en ont marre et que voilà, le retour vers la nature, voilà, quand tu regardes les humoristes, ce qu'ils font, c'est peut-être drôle, peut-être plus drôle, mais faire des blagues sur Facebook, sur ceci. Moi, voilà, moi, ce que je suis là, c'est que je raconte quelque chose. Moi.
Tu racontes quelque chose de personnel ?
Pas que, il y a aussi de la fiction. Il y a par exemple un sketch où j'appelle la dictature du progrès, où j'essaye d'anticiper ce que ce sera. À la base, j'avais écrit le sketch, je m'étais imaginé ce que ce sera dans 20 ans, mais ça va tellement vite qu'en un an et demi, on y est déjà en fait. Donc c'est vrai que ouais, tu essaies de faire de la fiction, mais ça va tellement vite que, tu vois, par exemple, Pokémon Go, quand j'ai écrit ce spectacle, j'aurais pas imaginé que c'était possible. Hein. Les êtres humains, ils suivent, ils sont là comme des zombies derrière un truc, sans porter de jugement. Hein, parce que,
j'ai acheté mon terrain il y a plus de 5 ans maintenant, et je connaissais déjà Cocopelli de réputation. J'avais déjà vu Jocelyn sur des salons, et le travail de Dominique Guillet, j'aime beaucoup, ça m'a l'air d'écrire même le site Cocopelli me parlait beaucoup. Je trouvais ça déjà très intéressant que des semenciers parlent de politique dans leur poste, et qui étaient un peu virulents, ça me plaisait beaucoup, je me reconnaissais vraiment dans leur travail. Du coup, naturellement, dès que j'ai enfin... ils ont contribué à me motiver à acheter un terrain. Quand enfin j'étais prêt à acheter mon terrain, je l'ai eu, ben, forcément, j'ai envoyé un mail, j'ai acheté des graines chez eux, quoi. Donc, j'ai acheté chez eux, et puis ils ont été tout de suite très généreux, ils m'ont fait beaucoup de cadeaux. Et puis, j'apprenais, mais je connais rien à la base. Un chou, une salade, c'était pas sûr que je fasse la différence. Et puis, très vite, la première année, on récolte 200 tonnes de patates, tout... Et du coup, comme je ne suis pas encore au point sur justement sur la récolte de graines, ben, j'y retournais chaque année. Et puis Cocopelli, ils ont été très généreux. Et puis voilà, petit à petit, ben, j'ai pu comprendre un peu pourquoi ils sont comme ça. J'ai vu qu'on est dans le même état d'esprit. Pour moi, c'est comme si c'était la famille. En fait. Et voilà, voilà, je suis très fier. Il y a Amanda qui est venue chez moi. Il y a Dominique qui m'a envoyé déjà des mails. Tu vois, Dominique, c'est un peu... c'est le ministre de l'Environnement, en réalité, si demain je suis au gouvernement, tu vois. Et du coup, bon, là, Et puis, Cocopelli, voilà, moi, j'entends travailler avec eux. Et puis, comme ils ont été sponsors, ils ont été partenaires de la petite prairie dans la cité, ce projet que j'ai fait, avec mon équipe, hein, mon association, les Brise Mutuelles, je suis pas tout seul. Et on a fait ça, Kriev, qui était là tout à l'heure, je sais pas si vous l'avez vu. Alors, j'ai mon collègue, on a fait ça, et ben, eux nous ont filé les graines, quoi, un carton de graines. Quoi, et puis ben, c'est une aventure, quoi. Moi, toujours, pour moi, les semences, je connais que... On me demande, ouais, alors, Cocopelli, c'est bien. Moi, je sais pas, je connais que ça, en fait. C'est vrai, à part des graines qu'on s'échange entre potes, on m'a donné des graines, sinon, je connais que Cocopelli. Forcément, ouais, j'aime bien dire que je suis paysan de famille. Je sais, mais je récolte pour mes proches et ma famille. Après, par exemple, avec la sauce, donc le 18 on fait des ateliers initiatiques. Transmission du savoir des anciens à des fins émancipatoires. Et quand on fait ça, ben, les adhérents, on fait la bouffe gratuitement. Forcément, des trucs du jardin. Quoi. Mais à part ça, j'ai jamais vendu de légumes parce que j'ai jamais senti le. Je trouve ça super, mais à vendre, ça me paraît gentil. Ça m'a toujours fait peur. Peut-être que j'y viendrai, mais. Voilà, j'ai un hectare, une parcelle d'un hectare. Un peu de bois, une forêt, une rivière qui passe. Un pré, voilà, des bonnes conditions, quoi. Dans l'abri, dans l'abri, dans l'abri, en cinéma.
Okay. Donc pas loin de l'endroit où tu as grandi, peut-être
À 50 km de Paris.
D'accord.
Et on fait 50 km, mais on passe de la mort à la vie, quoi. Ça paraît rien, mais... Je voulais être proche de Paris parce que je suis un être sociable et puis, et puis finalement j'ai bien fait parce que je pense que si j'avais fait une transition brutale, j'avais été au fin fond de la Creuse, j'aurais peut-être pas tenu. Certains jours de l'an, j'aurais pété les plombs. Alors là, quand je pétais les plombs, ben, je prenais ma voiture, j'allais en boîte de nuit à Paris, me rappeler le monde fou qui me manque tant. Et puis avec le temps, ben, j'y allais de moins en moins. Jusqu'à me dire, oh là là, je dois aller à Paris, je vois un spectacle humoristique. J'ai mes moutons, j'ai mon chien, j'ai mon potager arrosé, j'ai mes arbres. Mais bon, ben, voilà. Petit à petit, en fait, voilà, je me suis accroché à enraciner. Maintenant, voilà, maintenant je n'entends pas partir. C'est un événement, en fait, chaque printemps. donc au mois de mai. C'est la deuxième fois qu'on a fait ça, mais je pense qu'on va le refaire l'année prochaine. Donc Coco Pédou nous file des graines, nous on sème en couche chaude, et on fait partir les graines et on donne des plants. Parce que moi je me suis rendu compte que c'était un besoin que j'avais, moi c'est hyper compliqué à gérer, tu vois, des carottes tu sèmes en direct, mais par exemple les pieds de tomates c'est un mois et demi en avance. Des fois moi il y a des pieds de tomates que j'ai envoyé en février, si tu vois, quand c'est précoce. Et faut avoir 19 degrés tout le temps, bonne exposition, faut pas se louper l'arrosage pendant longtemps. Donc je m'étais rendu compte que c'était compliqué et que moi ça m'est arrivé plusieurs fois de foirer mes semis et de devoir acheter du F1 chez Jardin, pour pas les nommer. Et je trouvais ça horrible. Et donc je me suis dit ouais non, il ne faut pas manquer de plans. Voilà, si je faisais quelque chose dans un business, si on peut dire, j'aimerais vendre du plan Cocopelli. À la base c'était l'idée et puis finalement on les a donné. On les vient de cité. Pourquoi les cités? En réalité ça peut aller à tout le monde, hein. Mais c'est plus que moi j'ai grandi en cité et je dois beaucoup à la cité parce que ça m'a forgé aussi. Ça nous rend un peu con, mais ça nous rend aussi un peu fort la cité, je pense. Et du coup c'est un moyen de retourner. Et puis ça faisait aussi la possibilité que j'entende parler de mon spectacle par un moyen autre que faire de la com, payer des trucs. Voilà, je suis payé mais de mon temps. Moi je suis rien, je descendais au terrain, ouvrir mes serres, fermer, arroser. Et voilà, ça a donné, ça a marché. On est hyper content. Il y a plein d'associations qui ont bénéficié de ça, des gens qui envoient des mails avec des photos, dans ce qu'ils ont porté et tout. Voilà, génial quoi. C'est ça le bien.
Nosotros no necesitamos la paz. No necesitamos la batería. Nosotros necesitamos a la gente. Porque sin gente no podemos hacer nada. Así que antes que nada, merci beaucoup à tout le monde. Beautiful, nickel chrome. Say yeah oh, yeah oh.
Prise de son et montage, Véro. Merci aux artistes, associations, producteurs et artisans de s'être prêtés au jeu. Merci à toute l'équipe de Radio Campus Lille pour son soutien et ses conseils. Merci aux organisateurs et bénévoles du festival Les Verts Solidaires et particulièrement à Juliette et Michel.